rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous culture. Il nous tardait de nous retrouver pour enregistrer cette émission spéciale série, tant nous sommes enchantés de vous livrer nos derniers coups de cœur ou pas. Place à la diversité, avec des séries de tout genre, on aura de la science-fiction, de l'épopée historique, de la comédie politique, du thriller et de la comédie sportive. Et aussi de tout pays, comme de tout format, allant de la mini-série à la multisaison. Un point bien commun les rassemble toutefois, ce sont toutes deux bonnes séries, parce qu'elles nous ont plu, ou en tout cas, elles nous font réfléchir. On peut être mitigé, mais c'est toujours intéressant, et on va vous dire pourquoi. On a la joie aujourd'hui d'accueillir le sémillant Yann pour la série Shogun. Aurore nous parlera de trois séries, Foundation, Mercato et La Guerre des Mondes. Nathalie nous recommandera Fallout. Et pour ma part, j'ai choisi D'argent et de sang et Parlement. Et c'est Aurore qui ouvre le bal avec la série Foundation. Écoutons le trailer.
Quand j'étais petite, aux confins de la galaxie, j'ai entendu des histoires au sujet d'un homme capable de prédire l'avenir. Son histoire est restée obscure pour moi pendant bien des années. Jusqu'à ce que cette histoire devienne la mienne. Jusqu'à ce qu'elle devienne la seule histoire.
Vous connaissez mes travaux ? La psychohistoire ?
Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie.
Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis.
Notre histoire est remplie de charlatans et de faux prophètes.
Tuons-les.
Nous pourrions le supprimer, mais qu'adviendra-t-il de ces idées? Les martyrs ont tendance à laisser une trace derrière eux.
Ces calculs sont exacts. L'Empire est à l'agonie.
L'ordre laissera place au chaos. Le sol de milliers de mondes sera réduit à l'état de poussière. Tout changement est effrayant. Surtout pour les gens qui sont au pouvoir. Mais nous pouvons amortir la chute.
Et oui, Foundation, c'est une série donc, que j'ai regardée sur Canal+, issue de la fameuse saga d'Isaac Asimov. Et quand il y a un pendant littéraire, bah, j'aime bien pouvoir présenter parfois l'un en rapport à l'autre. En tout cas, j'ai regardé les deux saisons de la série avant d'avoir la curiosité de lire le premier roman. Donc c'est une série de science-fiction qui aborde le déterminisme. Alors c'est pas forcément hyper évident quand on écoute le trailer. Mais voilà, est-on maître ou pas de son destin ? Et que l'on soit empereur, savant, pilote, simple marchand, la question peut se poser. Dès le début, vous l'aurez entendu, Harry Seldon, un éminent professeur qui ne fait pas l'unanimité, avance la théorie suivante. L'avenir peut être déterminé des siècles à l'avance, tant qu'il s'agit des masses. On ne peut pas agir sur l'avenir d'un seul individu, mais on peut connaître celui d'une foule. Et dans le cas de l'Empire, Harry Seldon peut prédire sa chute et les siècles de décadence dus au chaos qui va suivre. Vous imaginez bien qu'une telle annonce n'est pas pour plaire à l'empereur, qui n'apprécie pas que l'on prédise la chute de sa dynastie et de tout ce qu'il a bâti. Mais s'il n'aime pas les prédictions de Harry Seldon, il l'écoute néanmoins et l'autorise à créer une fondation dans un monde reculé afin de concaténer les savoirs du monde et d'en réduire ainsi les siècles de décadence. Voilà une vaste entreprise qui devrait pouvoir occuper le vieux savant et éloigner ses mauvaises nouvelles avec lui. En tout cas, c'est comme ça que tout commence, et dans le roman et dans la série. Alors, les romans d'Isaac Asimov restent des piliers dans la littérature de science-fiction, là-dessus, rien à dire. Et à l'époque, cette histoire devait même être visionnaire. Il faut dire que le premier roman date déjà de 1951, il y a donc plus de 70 ans. Si on devait réécrire cette histoire aujourd'hui, on n'utiliserait sûrement pas les mêmes procédés littéraires, mais le fait d'en faire une série, voilà qu'il ancre dans un nouveau présent. Les effets spéciaux sont impressionnants et la façon de remanier le récit est vraiment captivante. Dans le roman initial, la narration est entrecoupée et passe d'un lieu à l'autre, ou même d'une époque à l'autre, avec de grandes ellipses. Dans la série, on retrouve ce procédé, mais l'intrigue implique autant ce qui se passe au cœur de l'Empire qu'aux extérieurs de la galaxie, à Terminus. On voyage beaucoup, dans le temps et dans l'espace, mais aussi dans la psychologie des personnages. Et c'est d'autant plus intéressant que les générations d'empereurs se succèdent et se ressemblent. Vous vous souvenez, au début, j'ai parlé de déterminisme ? Eh bien oui, est-on vraiment libre lorsqu'on naît pour un but précis et qu'on bénéficie de la mémoire des dizaines de générations précédentes ? Est-on libre si on est un androïde programmé pour une mission bien spécifique ? Est-on même libre si nous sommes humains et que nous pensons poursuivre un but noble, mais qu'on nous ment sur les véritables enjeux de notre activité ? Pour Harry Seldon, le futur peut être déterminé d'avance. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Eh bien, je vais vous laisser regarder la série, donc disponible sur Canal+, Apple TV, réfléchir à la question. Malgré tout, je voudrais noter un autre fait intéressant. Vous allez retrouver dans le personnage de l'empereur au grand jour, l'acteur charismatique Lee Pace, que vous avez déjà vu jouant le roi elfe Thranduil, souverain des elfes de la forêt, et père de Legolas dans la saga du Hobbit. Et si cet acteur est fait pour les rôles de pouvoir, il est à noter que plusieurs personnages masculins dans le roman initial Foundation ont été féminisés dans la série. Les prénoms, mixtes ou incertains, il y en a que j'en avais jamais entendu, que l'auteur avait choisi à l'époque, ont été gardés, mais le sexe de leur protagoniste a été modifié. Ainsi, des personnages forts, au rôle prépondérant, ont été attribués à des actrices sans que cela ne vienne perturber l'action ou le déroulement du récit. Donc voilà, Foundation, une série issue d'un grand classique de la littérature, réhabilitée de façon remarquable, et je ne peux que vous conseiller, surtout si vous êtes fan de SF. On va passer à un tout autre genre avec Anne qui va nous présenter D'argent et de sang, mais d'abord un petit extrait de la bande originale.
Nous venons d'écouter la musique du générique D'argent et de sang, signée du groupe toulousain Las Aves. D'argent et de sang, c'est une série inspirée de faits divers. Elle retrace l'épopée de l'arnaque du siècle, où deux escrocs de Belleville se sont unis à un trader des beaux quartiers parisiens pour détourner la TVA sur les quotas carbone. Cette taxe sur les droits à polluer, mise en place dans le sillage du protocole de Kyoto afin de limiter les émissions de gaz carbonique. La combine consistait à acheter les quotas de CO2 hors taxe à l'étranger et à les revendre, toutes taxes comprises en France, sans reverser la TVA facturée à l'administration fiscale. Quelques clics suffisaient pour renouveler l'opération des dizaines de fois et empocher à chaque tour 19,6% de la somme investie qui partait dans des paradis fiscaux. Cette fraude aurait coûté pas moins de 1,6 milliard d'euros aux finances de l'État français entre novembre 2008 et juin 2009. Une affaire complexe, faite de multiples sociétés écrans et de gérants de paille, racontée dans le livre-enquête du journaliste de Mediapart Fabrice Harfi, D'argent et de sang, et dans le documentaire de Guillaume Niclou, Les rois de l'arnaque, visible sur Netflix. Et pour sa première série, Xavier Giannoli, dont on connaît la finesse d'écriture, la développe encore plus précisément. Il faut dire qu'il est dans son élément, son thème de prédilection étant l'imposture. De l'escroc d'à l'origine, au jeune journaliste d'illusions perdues, en passant par la fausse cantatrice de Marguerite, le mensonge est la thématique principale de son cinéma. La série est claire, sans simplifier, traçant le portrait des trois escrocs revanchards, lancés dans une arnaque exponentielle qui dépasse largement leurs espérances et les entraîne dans une spirale infernale. Roi des magouilles en tout genre, l'un d'eux sachant à peine lire, Ils paraissent à la fois risibles, fascinants et aussi inquiétants, surtout Athias, le trader. Pour en comprendre les ficelles, le cinéaste ajoute un personnage fictif, un magistrat des douanes chargé de lutter contre la délinquance financière, soucieux de défendre l'État et une certaine idée de la justice sociale et écologique. Sa colère froide est empreinte d'une charge politique efficace. Il dénonce les responsabilités de l'État dans ce braquage inédit qui doit autant à l'ingéniosité des inventeurs de la fraude qu'à l'aveuglement des hauts fonctionnaires de Bercy. Comme il est interrogé par les juges du tribunal de grande instance, il retrace toute son enquête, qui partait d'une banale affaire de panneaux solaires, pour prendre des proportions colossales. Sa quête obsessionnelle trouve une résonance quasi mystique, reprenant l'idée du tikkun olam, concept théologique juif de réparation du monde. De fait, la question de la spiritualité, déjà abordée dans l'apparition, est essentielle dans D'argent et de sang. Les protagonistes ont tous un rapport à la judéité, les deux juifs séfarades tunisiens, le juif Askenaz, et pour le personnage du magistrat, l'enfant de juif converti au catholicisme après la guerre. Xavier Jannoli dresse une fresque incroyable qui traverse plusieurs milieux, plusieurs pays, ainsi qu'un tableau sombre d'une société rongée par l'individualisme et le cynisme, où même une initiative écologique est détournée pour s'enrichir toujours plus. Les 6 premiers épisodes sont consacrés à l'arnaque, les 6 suivants à la traque. Le tout forme un thriller brûlant et hyper bien rythmé. Chaque épisode appelle le suivant, c'est une escalade, portée par le jeu intense des acteurs, dont Vincent Lindon et Niels Schneider, qui a eu la lourde tâche de remplacer Gaspard Ulliel, décédé pendant le tournage. Un seul bémol me concernant, les scènes de relations père-fille du magistrat sont selon moi un peu ennuyeuses et n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. Mais en dehors de ça, on l'aura compris, j'ai été captivée par cette série qui n'a rien à envier à un bon Scorsese, tant elle est palpitante, puissante et magistrale. On va aller au Japon maintenant avec la série Shogun.
Do not be fooled by our politeness. Our bows are made of rituals. Death is in our air. And sea and earth. Just remember. We live and we die. We control nothing beyond that.
There's a saying out here. Every man has 3 hearts. One in his mouth for the world to know. Another in his chest, just for his friends. And a secret heart, buried deep, where no one can find it.
Désolé, je ne parlerai pas japonais car je ne parle japonais que devant un bon plat de sushi ou mieux de sashimi et des tasses de différents types de thé vert dans l'espoir de développer en mon humble palais l'incroyable force du umami. Bon, voilà, c'est bon là niveau cliché à 2 balles. Parce que là en gros, j'ai fait un résumé de l'ambiance de Shogun, la mini-série toujours pas finie en diffusion actuellement sur Disney+. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Cette série n'est pas mauvaise. Simplement, je dois être de mauvais poil en ce moment par rapport aux séries. J'en ai marre de voir les mêmes trames, les mêmes mécanismes. Certains, lent du ciboulot, vous diront « Ouais, non, c'est cool, il suffit de débrancher le cerveau et tu passes un super moment. » Non, non, non et non. Je ne veux pas débrancher le cerveau, au contraire, j'ai envie de le laisser courir dans les vertes prairies de l'art et de la culture. Qu'il court, qu'il mouline, se fatigue, ça le défoule et ça le repose. Il y a différents points sur lesquels il se permet pendant le visionnage de Shogun. Les paysages, l'atmosphère. En effet, ils sont japonisants sans tomber dans le stéréotype suranné de mauvais restos et cartes postales ou séries désuètes. Ils sont même propices à la contemplation. De belles brumes, des paysages non chargés. Mais bon, sont-ils vraiment japonais? Oui, si Vancouver est une ville japonaise. Le scénario est intéressant. Au XVIe siècle, un pilote de vaisseau anglais arrive avec un équipage hollandais sur le rivage japonais. Les Japonais vivent une période de trouble. L'occupation économique et religieuse portugaise, en plus d'un partage du pouvoir entre différents seigneurs japonais, les daimyos, qui forment un conseil de régence en attendant la majorité de l'héritier du taiko, l'équivalent du roi. Voilà. Ça, ça m'a bien plu. Oui, mais... J'en ai marre de devoir mettre cette expression. Allez, je l'enlève. Voilà, ça, ça m'a bien plu. Des intrigues politiques, c'est bien. Surtout quand parfois on croit que tel seigneur est plombé et paf, il s'en sort. C'était qu'une combine, t'as rien vu venir. Oui, mais quoi? Bah, en fait, il y a déjà plein de séries où ça se passe comme ça. Bah, fais comme si... Ah bon. Par contre, le générique est classe. Un grand château au centre avec plein de sable qui fait des circonvolutions comme dans un jardin zen japonais. Puis il y a des bateaux qui apparaissent en surgissant du sable et tout, ça monte, ça descend. Ça... C'est génial, c'est original. Ah ouais, c'est classe comme le générique de Game of Thrones. Et les anneaux de pouvoir. Non, mais il y a la traductrice avec le navigateur anglais. Non seulement elle traduit, mais on voit aussi qu'entre deux, puis les seigneurs, etc., les dialogues sont pas toujours ceux qui sont dits officiellement. Ouais, puis ça permet peut-être de faire une petite histoire à l'eau de rose. Non, ça, je te réponds même pas. Oui, bah, c'est génial, ça, le côté, les traducteurs qui disent ben, qui font de la langue de bois, ça ressemble un peu à des politiques, non? Peut-être. Oui, ça c'est vrai que c'est intéressant, ça montre aussi comment chaque culture s'exprime, ses us et coutumes. Oui, puis le japonais est moins rustre que l'occidental de cette époque, hein. Il boit que du matcha, c'est zen, il a son petit râteau avec... Non, je m'égare. Mais la cérémonie du thé l'est moins. Puis il y a le suicide qu'on appelle en France Harakiri. Ça, on le voit, et même une fois, on voit bien la tête partir. Ça, c'est... On voit les effets... Ben, j'espère qu'il y avait un effet spécial, en fait. Sinon, le pauvre acteur, je le plains. Surtout que la tête, elle part vraiment bien. Il y a des galipettes et tout. Mais les personnages... Oui, les personnages sont intéressants. Certes, certains, bon, on voit bien leur rôle, etc. Il y a... Moi, mon préféré, c'est peut-être celui qui parle le moins. Il fait un peu con. C'est-à-dire, il est toujours... C'est, voilà. Il fait très rustre, très bourrin. On le découvre arrivant dans un village et prenant un des navigateurs et le mettant dans une marmite de flotte. Et voir combien de temps et quel va être l'étagement de ses cris en fonction de la douleur jusqu'à la mort. Il veut entendre la mort. Donc voilà, donc on tombe là-dessus avec déjà ce genre de cliché un peu, ce raffinement oriental dans les douleurs, les supplices.
Alors attends, ça c'est Disney, c'est ça que t'as dit?
Ouais,
okay.
Non, ça change. Non mais casse pas tous mes effets. Mais du coup, on a des choses, mais après, voilà, on va aller sur le cliché du haïku, on va aller sur différents clichés à différents moments. Et c'est dommage, parce que du coup, ça donne des grosses cordes dans une ambiance où il n'y en a pas. Parce que par contre, pour du Disney, je ne devrais pas dire ça, parce qu'en plus, je suis entouré de femmes. Mais voilà, à un moment, il y a une femme qui se met à vouloir attaquer un groupe d'hommes. Elle arrête et dit, je ne suis pas de taille pour pouvoir les vaincre. Et je me suis dit, mince, ça passe sur Disney. C'est curieux. Mais du coup, voilà, il y a des moments, c'est pareil, dans les intrigues, on ne nous révèle pas trop. Alors, il y a des choses, ça, on le voit venir comme le pif Tyranno dans sa figure. Mais il y a d'autres choses, on le voit moins. On continue à se poser des questions sur certains aspects des personnages. Et après, ils se mettent, au fur et à mesure des épisodes, à nous expliquer les choses qui se sont passées avant. Et du coup, bah, je trouve que ça vient un peu gâcher la mécanique. Et du coup, bah, au final, on a quand même un peu de cul, un peu de violence et un peu de politique. Un peu comme dans Game of Thrones. Mais ici, ça fait plus réaliste. Surtout, ce qui fait surtout très réaliste, c'est que tous les Portugais parlent anglais en 1600. Et tout de suite, on est dans l'ambiance. Puis les catholiques sont tous des méchants, mais pas les protestants. D'ailleurs, le héros a un charisme. Bon, alors, on va arrêter de plaisanter. Et que peut-on en penser en conclusion? Bah, j'ai le cul entre deux chaises. En effet, je prends plaisir à regarder cette série d'a priori 10 épisodes de 60 minutes en cours de diffusion. Le 9e vient de sortir hier. C'est pas mal fait, à part les grosses cordes à série que je viens de citer. Mais c'est lassant de ne pas ressentir une vraie originalité. Je suis sûr qu'elle est mieux que le Shogun d'origine avec Richard Chamberlain, qui date de 1980. Je vais essayer de le trouver, celui-là. J'ai vu quelques photos, c'est trop beau. Des Japonais à moustache, on dirait Monsieur Rodriguez, mon ancien voisin. C'est magnifique. Au moins au niveau du graphisme. Après, je n'ai pas lu le livre dont il est tiré, Shogun de James Clavell. Je vais essayer de le trouver dans ma bibliothèque favorite. Mais déjà, le côté influencé par Game of Thrones, par Viking, et un truc que j'ai retrouvé de Viking, c'est les bruits vachement électroniques, genre pour paraître inquiétant, pour le côté violent. Et en fait, ça fait juste pitié, ça vient gâcher l'ambiance, quoi. Le créateur de série, remuez-vous le cerveau. Remuez-vous les boyaux de la tête, cultivez-vous, cherchez de nouvelles choses, créez, et quand vous le faites, ne bâclez pas la fin. Ça, je voulais le dire par rapport aux chroniques précédentes. Mais bon, et après, vous arriverez à faire vraiment des séries qui seront de la balle, et ainsi, vous pourrez vous lancer avec toute sérénité dans un bon mercato, comme celui dont va nous parler Aurore, tout de suite après la bande-annonce.
Revenons à présent sur l'affaire Brandon Nino et le chaos qui règne à Marseille depuis que la star brésilienne a été blessée.
Insultes, menaces, c'est le feu sur les réseaux sociaux.
Vous êtes muté.
Où ça?
PJ de Marseille.
Non.
Encore un Parisien qui a pas de nerf de semaine comme d'hab. Promets-moi de faire un effort avec le nouveau.
C'est moi le nouveau chef de groupe. C'est moi qui donne les ordres.
Oh, tranquille, le Parisien.
Je veux juste rentrer chez moi.
Eh bien, vous l'aurez compris dans la bande-annonce, Mercato, c'est l'histoire de Thomas Chevalier, flic à la carrière exemplaire. Alors qu'il se trouve par hasard à l'aéroport au moment de l'arrivée de la nouvelle recrue de l'OM, il est obligé d'intervenir pour neutraliser un forcené qui s'apprête à attaquer le footballeur. Et là, c'est le drame. Le policier tire accidentellement dans la jambe du footballeur, déclenchant la risée des médias autant que la fureur des Marseillais et de sa hiérarchie. Pour le punir, il se retrouve donc muté à Marseille, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Là-bas, il prend la tête d'un groupe d'enquêteurs de terrain. Mais avant d'être reconnu en tant que chef, il va devoir faire ses preuves et accorder sa confiance à des agents pleins d'a priori. Moi, je suis fan des séries d'enquête, mais en revanche, je suis moins bon public quand il s'agit de faire de l'humour. Et pourtant, si les situations sont parfois cocasses, voire même exagérées, elles le sont avec une légèreté qui fait du bien. On est gêné pour notre héros parfois, on rit de bon cœur, de sa naïveté ou de ses maladresses. On est un peu comme un membre de son équipe aussi. On ne sait pas trop bien s'il faut le laisser faire, lui accorder une confiance aveugle ou si on ne serait pas mieux sans lui. Mais d'épisode en épisode, pris au jeu de sa tourmente, on apprécie que les liens entre lui et sa nouvelle équipe se tissent doucement, se consolident par de heureux ou malheureux hasards, et que son professionnalisme puisse, de temps à autre, être reconnu. Arnaud Ducret, qu'on aura tous découvert il y a des années dans la célèbre sitcom Caméra Café, a pris du grade et joue très bien son rôle de chef bancal et bien intentionné, soutenu par la délicieuse et très naturelle Manon Azem, qui apporte fraîcheur et sensualité à la série, par ailleurs très masculine. Mercato est une série qui n'a pas du tout de rapport au foot, si ce n'est dans son premier épisode. En tout cas, c'est divertissant et léger, à dévorer après une journée de boulot bien remplie.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Nous allons parler maintenant de la série Parlement et je vous propose d'écouter la bande-annonce.
C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. Vu du dessus? Ah oui, non, mais je viens d'un même le sol là.
Le boulot de ton député. Boum, 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 boum.
fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi.
Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you.
Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Sam?
On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit.
Non, ça, on peut pas faire.
Bonjour Maurice, je m'appelle...
Mais t'es bizarre.
Ah.
C'est à votre conseiller politique de vous orienter.
Oui, d'accord, mais alors, Maurice me déteste.
On n'a pas.
Excuse-moi.
Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés.
Donc de Michel? Vous l'avez déjà rencontré?
Hello!
Non, Michel.
Ça va, c'est Thorsten.
Du ninja?
Si la production halieutique dans sa circonscription... Conscription?
C'est vrai, c'est un mot d'adulte.
Oui, oui.
C'est possible, quoi?
Ben, c'est possible.
Oui, oui.
Next!
Et là, ça devient assez simple, puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13.
Ouais, ouais.
Parlement est une série comique en 3 saisons, de 10 épisodes de 28 minutes chacune, qui nous plonge dans la Constitution européenne, d'abord à Bruxelles, puis à Strasbourg. Dit comme ça, le sujet n'a rien de glamour. Mais détrompez-vous, car les auteurs ont choisi de l'aborder sous le prisme de l'humour, et c'est hilarant. Ils réussissent le tour de force de rendre attrayante l'Union européenne et de nous initier au fonctionnement de son Parlement d'une manière légère, joyeuse, jamais didactique. On suit les premiers pas au Parlement européen de Samy, incarné par le très convaincant Xavier Lacaille. Il débarque pour être assistant parlementaire d'un eurodéputé français centriste, Michel Spetlin, magnifiquement interprété par Philippe Duquesne, ex des chiens. Ce député va s'avérer gentiment béni, avouant ne toujours pas comprendre ses fonctions qu'il est censé exercer depuis plusieurs années. L'incursion d'un novice dans un nouveau monde hyper codé et abscon nous permet de découvrir les subtilités de son métier en même temps que lui. Témoin de la fabrication des lois européennes, il va devoir lui-même déposer un amendement pour interdire le shark finning, pratique cruelle de pêche des ailerons de requins. Pour ce faire, Samy va devoir chercher des alliances, trouver des arrangements, déjouer les combines des lobbyistes, accepter des compromis, voir les conseillers remiser leur idéal au profit du calcul politique. La série montre comment on y passe son temps à parlementer et comment il est difficile de se mettre d'accord à 27. Cette complexité offre une matière comique incroyable. Et plus c'est compliqué, plus c'est drôle. Ainsi, chaque directive donne lieu à des négociations ubuesques. Notre candide héros en viendra à constater qu'il existe deux types de députés, les psychopathes et les imbéciles. Dans la seconde saison, il secondera une eurodéputée fraîchement élue, ambitieuse et stratégique, en quête d'un coup d'éclat. La saison 3 se penchera sur la Commission européenne, dévoilant au passage les rivalités institutionnelles. On y a même des guests. Clément Beaune y a campé son propre rôle de secrétaire d'État français aux affaires européennes et l'eurodéputée insoumise Manon Aubry apparaît dans un épisode. Cette coproduction franco-germano-belge est très bien documentée. Le mari de la productrice Fabienne Servan-Schreiber, Henri Weber, ayant longtemps été eurodéputé, et le scénariste Noé Debré s'est associé pour l'écriture à deux eurocrates, fonctionnaires des institutions européennes. Les coulisses de cette administration nébuleuse sont rendues piquantes et romanesques, grâce aux pérégrinations de Samy, qui noue des relations amoureuses avec une assistante anglaise d'une députée pro-Brexit, délicieusement idiote et inculte, une relation amicale avec un assistant allemand qui n'a peur de rien, et il se trouvera un mentor avec Imone, un personnage charismatique et énigmatique au flegme incroyable, qui a une connaissance encyclopédique des lois très utile. Et on se prend vite d'empathie pour ces personnages singuliers, excentriques à leur manière. C'est audacieux, insolent, et Noé Debré ose rendre clownesques des situations crédibles, l'absurdité de certaines procédures, poussant les traits des personnages avec dérision. Il met en lumière les particularismes nationaux et les clichés qui en découlent. La caricature fait comprendre les enjeux politiques et la réalité des relations de force qui y règnent. C'est une série cosmopolite, dialoguée en plusieurs langues, au casting international, qui convoque autant de registres d'humour, du sarcasme britannique pince sans rire, au burlesque. Elle se veut une satire du monde politique sans être une critique acerbe, et elle cultive un ton irrévérencieux, bon enfant. C'est frais, enlevé, très intelligent et instructif. Alors bravo à cette série, qui réussit à rendre passionnant le sujet politique européen Et qui sait, peut-être qu'elle pourrait amener le public à s'intéresser aux élections européennes et faire augmenter le taux de participation. D'ailleurs, on voit en ce moment à la télévision des spots publicitaires avec les acteurs de la série, je ne sais pas si vous avez vu, qui incitent à aller voter. On va passer à la science-fiction maintenant. Et si vous connaissez le jeu vidéo Fallout, cette série va beaucoup vous intéresser.
Hello there. I'm here to show you a wonderful place. A veritable Camelot, the nuclear age. Not made by God Almighty, but the working man.
You can be a hero by purchasing a residence and a Vault-Tec vault today. Because if the worst should happen tomorrow, the world is going to need you to build a better day after.
The mission of the vaults should be important to everyone. Come up to the surface one day and restart civilization. Can you tell me what's happened in the last 200 years?
Holy shit. You're an actual vault dweller.
I am.
I thought all you dipshits were dead.
What you're doing is insane.
I don't want to set the world.
It isn't like the vault out there. It's big.
Higher. I just want to start.
I've had a rough week. Practically every person I've met up here has tried to kill me.
I'm simply going to harvest your organs.
You need to go home. You come from a world of rules, of laws. You should not be alone.
Alors, Fallout est une série créée par Jonathan Nolan qui est sortie sur Amazon Prime la semaine dernière. Il s'agit d'une adaptation des jeux vidéo du même nom qui ont connu un grand succès pour la plupart des jeux dans l'univers vidéoludique. J'ai pour ma part passé des centaines d'heures à jouer à ces jeux, donc vous vous imaginez mon degré d'attente et d'exigence très élevé sur cette adaptation. L'univers de Fallout est un univers post-apocalyptique, post-nucléaire, dans les jeux et dans la série. L'histoire se déroule un peu plus de 200 ans après les explosions. On y croise deux catégories de population, les habitants d'abris, qui sont des descendants des personnes qui ont eu assez d'influence ou assez d'argent pour avoir des places dans un abri anti-atomique. Il y a une centaine d'abris éparpillés dans les États-Unis. Et donc ces habitants vivent reclus, sans contact avec la surface, et ils respectent des codes sociaux pré-atomiques, et aussi des règles de vie commune inhérentes à la cohabitation qui sont assez particulières. Et d'un autre côté, on a les habitants de la surface qui vivent dans des villes construites sur des ruines et avec des ruines, dans un environnement caractérisé par une violence constante, dans lequel seul le plus fort ou le plus malin s'en sort. Et à la surface, la société est divisée en factions qui s'opposent. Dans les jeux comme dans la série, L'histoire racontée est celle d'un habitant d'un abri qui est contraint de sortir à la surface et de découvrir la société qui s'y est développée. Dans les jeux, comme dans la série, l'univers est d'une richesse incroyable. Le microcosme des abris est très particulier. Les paysages extérieurs sont d'une grande beauté malgré le délabrement des bâtiments. La lumière est bien reprise dans la série, elle est très particulière, elle est jaune, orange, verdâtre à cause des radiations. Il existe une faune et une flore très riches. On peut y croiser par exemple des rats de cafards, donc ce sont des cafards géants à cause des radiations. On a aussi des rats de scorpions, c'est la même chose mais avec des scorpions. Et on peut cueillir des pommates, donc c'est des mélanges de pommes de terre et de tomates qui ont muté, du coup ça fait des pommates. Voilà. Et on peut également rencontrer des ghouls, donc ce sont des humains, ce sont des humains fortement irradiés, très costauds et qui sont très vieux.
Je suis désolée, je me suis pas remis des pommates en fait.
Et on a des super mutants qui sont très très impressionnants. Autre particularité des jeux reprises dans la série, c'est l'esthétisme. Donc avant les explosions atomiques, le monde était déjà bien particulier et il reste de nombreuses traces de ces caractéristiques 200 ans après. L'histoire nous raconte que juste après la Seconde Guerre mondiale, la technologie s'est nourrie des recherches en énergie nucléaire, ce qui a permis un développement plus rapide de la société. Donc l'univers de base de Fallout est un univers bien plus avancé que le nôtre. Cependant, l'esthétisme des jeux et de la série reste très marqué par les années 50 et 60. On le voit à la forme des voitures, aux costumes, aux coiffures et surtout à la musique. Dans le jeu, on peut écouter la radio. Et on est bercé, alors qu'on est en train de se combattre de toutes parts, par la musique de Billie Holiday, de Dean Martin ou de Duke Ellington. Les objets du quotidien ont aussi un design typique de cette époque. On est donc dans une ambiance très spécifique dans les jeux Fallout. Et donc, en écoutant ma chronique, vous avez entendu que j'ai décrit conjointement les jeux et la série. C'est parce que c'est une adaptation absolument parfaite des jeux. Il ne manque rien. On a même des clins d'œil au système de jeu. Et du coup, l'immersion est vraiment complète. On a la musique, le design, la faune, la flore, les méchants, les voitures, les bâtiments. Tout est parfait. Le fanservice est énormément présent. Et du coup, je me suis demandé si les spectateurs qui ne connaissaient pas les jeux pouvaient passer un bon moment quand même. Je pense que oui. Mais Aurore va peut-être pouvoir nous en parler. On reste quand même sur de la SF solide, qui est bien rendu. Le scénario de la série est différent de celui des jeux. Là, c'est quelque chose de très intelligent pour moi d'avoir fait une adaptation d'une série en reprenant l'univers, mais en faisant une histoire différente. Donc, le scénario est riche, mais il se tient. Il n'y a pas d'incohérence. Les personnages sont complexes et attachants, même les antagonistes. Il y a de l'humour, des moments graves, des moments romantiques. Et il y a une vraie réflexion sur la société. Bref, cette série est une grande réussite pour moi, en tout cas. Et je lui souhaite le plus grand succès possible, parce que je ne pourrais pas vivre sans une seconde saison.
Eh ben, écoute, je souhaite à Fallout une seconde saison. Hein. Je voudrais que tu reviennes pour nous parler d'autres séries plus tard. Effectivement, du coup, moi, j'ai eu envie de commencer à regarder aussi. Alors, en vrai, je suis vraiment au tout début, donc mon avis, il n'est pas du tout encore forgé. J'ai bien aimé les univers. Enfin, moi, j'aime bien la SF et tout ça. J'en ai présenté tout à l'heure. J'en présenterai encore avant la fin de l'émission. Et donc, l'univers post-apocalyptique, tout ça, effectivement, on a les ingrédients qui faut, la salade est bien faite. Il y a des choses qui m'ont semblé complètement incohérentes, par contre, comme le fait qu'à un moment, l'héroïne se prend un gros coup de couteau, elle l'enlève, ah, et d'un coup, elle a plus mal. Et je me suis dit, bah, en fait, non. Et là, toi, tu m'as dit...
Bah dans les jeux, c'est comme ça. elle utilise un steam pack, c'est-à-dire c'est un truc pour se soigner. Et dans les jeux, ça nous fait regagner un tiers de notre vie. Donc on peut se soigner complètement avec ça et on n'a plus mal. Et puis on passe à autre chose. En fait, on est guéri.
Et voilà, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était une incohérence. Après, je ne l'ai pas vu réellement se soigner. Donc peut-être que j'ai aussi loupé un petit truc qu'ils ont montré et que j'ai pas fait attention parce que je ne suis pas joueuse. Mais voilà, quand on a peut-être le décodeur jeu, bah, y a peut-être des choses qui vont passer tout à fait crème. Et voilà. Mais maintenant que tu as parlé des pommates, franchement, j'ai envie de regarder la suite. Hein.
En fait, c'est pas incroyable les pommates. Parce que c'est les pommes de terre et la pomme de terre comme la tomate, c'est la même voisine, la même famille, c'est des solanacées. Donc vous pouvez déjà chez vous, si vous n'avez pas beaucoup de place, mettre un pied de pomme de terre, vous greffez dessus un pied de tomate, vous aurez aux racines des pommes de terre et en l'air vous aurez des tomates.
Comme quoi ce jeu est très cohérent.
Surtout avec des irradiations en général, des mecs super forts. Les seuls irradiés qu'on a pu voir aux infos, souvent ils avaient plutôt de multiples cancers que Hulk.
Oui, c'est ça. Mais dans le jeu, ils deviennent des ghouls et du coup, ils sont super solides. Ouais, oui, ils font ce bruit-là.
Quand même. C'est des sortes de.
Bah, c'est des ghouls, quoi.
Exactement. Bon, on va rester dans l'ASF avec Aurore qui va nous parler de la guerre des mondes. Et juste avant, on va écouter la bande-annonce.
Oui, la bande-annonce de la guerre des mondes. Voilà.
We have detected evidence of extraterrestrial life.
Why are we detecting this now?
Perhaps they were looking for us.
Emily, what are you doing?
Come with me right now, you're gonna die.
Everyone's dead, aren't they?
Hey, are you guys okay?
You've been looking after all of them.
No idea.
I didn't mean to escape.
My sight
has come back. It's not like my sight was before. It's different.
So where are you going?
I'm trying to find a way to kill these things. How the hell do they know so much about us?
This is my son, Sasha.
Anything that you can tell me will help. You feel what they feel. You're the one person they don't want. Why is that?
I have to go to them. It's the only way to find out why this is happening to me. I have to know.
Eh bien, on connaît sans doute tous le film La Guerre des Mondes de 2005 avec Tom Cruise. Une ambiance effrayante où les aliens viennent cannibaliser notre monde et où la bagarre fait rage entre chaque scène de suspense. Dans la version Canal+, la série La Guerre des Mondes franco-américano-britannique, oui, rien que ça, on baigne dans un tout autre registre. Bien sûr, on retrouve le scénario de base. Les aliens attaquent la Terre sans qu'on y soit préparé. Ouh ! On ne change pas la recette de base, hein, écrite par H.G. Wells, publiée il y a plus d'un siècle, en 1898. Quand même, faut le signaler. Mais si La Guerre des Mondes est une histoire apocalyptique, Canal+ en fait avant tout une histoire humaine. On suit le destin de cette mère qui tente par tous les moyens de protéger ses deux adolescents. De cet homme, détruit depuis son divorce, qui, malgré de bonnes intentions, perd une partie de lui-même dans cette lutte contre un ennemi inconnu. De ce père, frivole et loin des siens, qui prend conscience que sa famille est sa seule raison d'être. Ou encore de cet adolescent torturé, couvé par une mère célibataire, qu'elle aime aussi sûrement qu'elle est épuisée par sa condition. On vit l'apocalypse à leur côté. Chacun leur tour, ils font des choix, suivent des chemins et trouvent dans cet enfer des réponses que le monde d'avant ne leur offrait pas. Petit bémol, ah, attention, je fais une Yann. Alors, petit bémol quand même, malgré tout, sur Léa Drucker. Si la comédienne a mis sa carrière en orbite, pour reprendre le titre d'un article que j'ai lu en ligne, en enchaînant un rôle dans la série Le Bureau des Légendes, puis dans La Guerre des Mondes, on ne peut pas dire que c'est grâce à elle que la série prend son envol. Son jeu d'actrice est morne et d'un plat à faire frémir bien pire que les aliens. Qu'elle soit stressée, inquiète, heureuse, surprise, elle arbore toujours le même ton monocorde et le même visage inexpressif. Cachée derrière un militaire français dont le rôle se résume au strict minimum, elle n'en profite même pas pour éblouir l'écran, à croire que ce serait trop épuisant. Mais Léa Drucker partage en revanche l'affiche avec l'excellent Gabriel Byrne et la pétillante Elizabeth McGovern, en tout cas dans la saison 1. Si je laisse parler mon côté chauvin et que je suis contente qu'une série de cette envergure soit en partie française, mais je suis surtout rassurée qu'elle soit portée par des acteurs de talent, même s'ils sont américains ou britanniques. Le rôle de Gabriel Byrne est l'un des plus cruciaux et complexes, et il le joue à merveille. À la fois scientifique et divorcé, il cherche à protéger son ex-femme et son fils de la catastrophe qu'il devine. Plus tard, il se mettra à la recherche de son fils et d'une manière d'éliminer ces créatures venues de l'espace. C'est véritablement lui qui, à mon sens, porte la série. Pour autant, les destins croisés de nombreux personnages nous permettent de voir d'autres facettes de cette histoire d'invasion. La jeune Emily, que vous avez entendue dans le trailer, jouée par la talentueuse Daisy Edgar-Jones, aveugle, qui retrouve la vue par intermittence à l'approche des créatures, nous intrigue autant qu'elle nous effraie. Et même Sacha, ce fils incestueux et adolescent tourmenté, nous rappelle que même en cas de fin du monde, les problèmes humains restent bien concrets et animent nos décisions quotidiennes. Bravo d'ailleurs au jeune acteur français Mathieu Torloting, qui entre dans le rôle de toute son âme. Je lui souhaite un très bel avenir dans le cinéma puisqu'il n'a que 22 ans. En tout cas, je peux vous dire que j'ai vu et revu le film de 2005 maintes fois quand j'étais ado. Mais qu'en regardant cette série, je trouve une profondeur bien plus vaste au texte d'H.G. Wells que je n'avais pas soupçonné avant ça. Sans doute aussi parce que pour le coup, celui-là je ne l'ai pas lu. Mais je me demande comment on peut tirer des scénarios aussi différents d'un même texte, donc peut-être que ça va venir. En tout cas, vive la magie du petit écran.
Merci beaucoup Aurore. Tu nous as donc présenté en premier Foundation, ensuite Mercato et tu viens de finir avec La Guerre des Mondes. Yann, tu nous as présenté Shogun, merci beaucoup. Et Nathalie, Fallout. Et merci beaucoup. Et pour ma part, je vous ai présenté D'Argent et de Sang et Parlement. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder ces séries, ou si vous les avez déjà vues, n'hésitez pas à nous en parler quand vous passez nous voir en bibliothèque. Pour parler des bibliothèques, le samedi 27 avril à 11h30 aura lieu l'inauguration du Fab Lab à la bibliothèque Mourichon. Et oui, Aurore, t'avais oublié ?
Non, j'ai pas oublié, mais il faut venir nombreux. Voilà.
Et le samedi 4 mai à 17h, les Petits Socratiques Café Philo, une discussion et un débat philosophique animé par Julien Chardonnet sur la brève introduction à l'anthropologie de la pensée politique classique. Le vendredi 10 mai à 18h30 aura lieu le festival Acouphène, des concerts de folk, metal, pop ou rock, soirée organisée par Larsen, l'association de l'UTC. Les prochains rendez-vous culture, le vendredi 24 mai à 18h à la bibliothèque Saint-Corneille et sur notre radio préférée Radio Graphite, le vendredi 31 mai à 18h. Passez tous un très bon week-end.